Vous écoutez France Culture.
Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Evelyne Grossman, qui publie Antonin Artaud, un insurgé du corps, dans la collection Découverte chez Gallimard. Je suis un homme qui a beaucoup souffert de l'esprit, et à ce titre, j'ai le droit de parler. Je sais comment ça se trafique là-dedans. J'ai laissé longtemps la musique, Evelyne Grossman, pas seulement parce qu'elle est belle, mais aussi parce que je voulais me replonger dans votre bibliographie et des livres. Vous en avez écrit beaucoup, beaucoup.
Sur Artaud, entre autres, oui.
Entre autres, oui. Surtout sur Artaud, mais pas seulement.
Pas seulement, non, c'est vrai. Sur la littérature du XXe siècle en particulier, oui. La littérature et la philosophie du XXe siècle, oui.
Surtout la littérature française, avec une petite incursion du côté de l'Irlande, avec Joyce.
Joyce et Beckett, qui est quand même pas tout à fait un écrivain français.
Et la dernière fois que je vous ai reçu dans un studio, c'était pour parler de Marguerite Duras.
C'est vrai, je me souviens, oui.
Il y a un lien entre tous ces noms?
Il y a un lien peut-être inaperçu, mais qui me paraît tout de même essentiel, oui, entre Beckett, Duras, Artaud et d'autres. Outre le fait que ce sont des écrivains du XXe siècle, il s'agit, je crois, d'écrivains qui ont travaillé sur la perte de soi, la perte de l'identité, sur une forme d'écriture à l'infini. Et je crois que Marguerite Duras a ça en commun avec Antonin Artaud, et puis aussi l'exploration de territoires réputés fous, de l'esprit, de la psyché.
Artaud, c'est pas un sujet facile.
C'est un sujet sans doute difficile, mais que je ne trouve pour ma part pas si inabordable que ça, pas si illisible que cela. Il y a des écritures contemporaines que je trouve infiniment plus inabordables que celles d'Artaud, sans citer de nom. On arrive à avoir une...
Même si je vous les demande.
Ah non, non. non, je ne vise personne en particulier. Je trouve qu'on parvient à avoir une certaine familiarité avec des œuvres comme celle d'Artaud quand on fait l'effort d'explorer des territoires de sa propre psyché, qui sont peut-être moins quotidiens que d'autres, mais qui... qui sont en tout cas bouleversants.
Artaud, on ne peut pas vous soupçonner de ne pas l'avoir lu. Quelquefois, il y a des universitaires ou des critiques qui parlent de livres qu'ils n'ont pas lus. Mais ça ne peut pas être votre cas, puisque vous l'avez édité, Antonin Artaud, ce gros volume de la collection Quarto, de ses œuvres. Est-ce que, malgré tout, vous avez encore des découvertes à faire sur ce continent-là?
C'est la question que je me pose souvent. Est-ce qu'on peut encore écrire sur Antonin Artaud? Est-ce que je peux encore trouver quelque chose que je n'avais pas encore aperçu dans l'œuvre d'Artaud? À chaque fois, je me dis non, c'est fini, c'est la dernière fois. Et à chaque fois, curieusement, des découvertes surviennent, oui. J'ai participé récemment à un colloque à la BNF à l'occasion de l'exposition Antonin Artaud qui a lieu en ce moment. Et le titre, c'était Artaud et la psychanalyse. A priori, je pensais que j'avais à peu près, non pas tout dit sur la question, mais pour moi, suffisamment réfléchi sur la question pour ne rien avoir d'autre à dire. Et j'ai trouvé là, en tout cas pour moi, des choses nouvelles, des idées que je n'avais pas encore explorées. Je crois qu'il y a quelque chose d'inépuisable dans l'écriture d'Antonin Artaud, en tout cas pour moi.
Il y a de l'inconnu encore.
Il y a de l'inconnu, il n'y a même que de l'inconnu, parce que c'est cela qu'il essaie d'écrire, oui.
Vous faisiez allusion à cette exposition qui se tient actuellement à la Bibliothèque nationale de France, qu'on peut voir jusqu'au 4 février d'ailleurs, avec un très beau catalogue, si on ne peut pas se déranger jusque-là. Un catalogue auquel vous avez collaboré, Evelyne Grossman, avec un texte que vous avez intitulé « L'art crève les yeux ». Et vous avez aussi préfacé et établi l'édition d'un cahier Ivry, janvier 1948. On en dira quelques mots tout à l'heure, parce qu'il y a aussi maintenant... cette entreprise-là, la publication de cahiers qui reste justement des découvertes à faire, et ce volume de la collection Découvertes chez Gallimard, Antonin Artaud, un insurgé du corps, où là, à destination d'un public peut-être moins averti, vous retracez la trajectoire du poète depuis ses premiers poèmes surréalistes jusqu'au texte fulgurant de la fin. Mais ça ne vous inquiète pas, toutes ces manifestations institutionnelles autour de cet écrivain qui l'est si peu?
On aurait pu craindre cela, c'est vrai, une certaine récupération, comme l'on dit, institutionnelle de l'œuvre d'Antonin Artaud, mais je ne crois pas que ce soit le cas. D'abord parce que l'exposition qui est actuellement montrée à la Bibliothèque nationale de France est tout sauf une exposition académique. C'est Guillaume Faux qui est le conservateur actuel du fonds Antonin Artaud à la Bibliothèque nationale de France qui a organisé cette exposition. Et je dois dire que c'est une exposition magnifique parce qu'elle fait découvrir à un très grand public toute la diversité de l'œuvre d'Artaud. Et je sais, pour en avoir beaucoup parlé avec des étudiants, de jeunes lecteurs qui découvrent pour la première fois, par exemple, les manuscrits d'Artaud qui sont exposés, les dessins que l'on voit pas toujours tout de même, ou alors il faut aller à Marseille, au musée Cantini, quelques-uns sont parfois montrés à Beaubourg, pas tous, et ils découvrent ça et ils reçoivent vraiment un choc extraordinaire en voyant cela. En plus, on peut découvrir les films dans lesquels Artaud a tourné, films qu'on voit très rarement. Donc je crois que c'est tout sauf une récupération institutionnelle, c'est au contraire de montrer que l'œuvre est encore à découvrir, encore à lire, et justement par de jeunes lecteurs qui connaissent très peu encore Antonin Artaud, qui ont ces images d'Épinal, d'écrivain fou, qui a passé pas mal d'années dans les hôpitaux psychiatriques, écrivain maudit, enfin images d'Épinal qui doivent être dépassées pour justement découvrir la force de cette œuvre. Je crois qu'on ne parlera jamais trop d'Antonin Artaud. Il y a actuellement un certain nombre de livres, c'est vrai, qui sont publiés et qui permettent toutes sortes d'entrées dans l'œuvre. Vous avez raison de dire, bon, il y a ce petit découverte qui est dirigé vers un public large qui ne connaît pas encore très bien Artaud. pour essayer de montrer tout ce que représente cette œuvre, comment on peut l'aborder quand on ne sait pas trop par quoi commencer. Et puis, il y a des livres plus érudits qui s'adressent à un public peut-être plus spécifique, qui a déjà lu les grands textes d'Artaud, qui a entendu parler du théâtre et son double, par exemple, ou de l'ombilique des limbes, ou des textes relativement connus d'Artaud, mais qui, par exemple, ne connaît pas ces fameux petits cahiers d'écoliers. Donc c'est la raison pour laquelle on a fait paraître chez Gallimard un fac-similé d'un des petits cahiers d'écoliers d'Ivry. Il y a 406 petits cahiers qu'Artaud a noirci à partir de 1945 jusqu'à la fin de sa vie, en 1948, sur lesquels il écrivait tous les jours de façon absolument frénétique, qu'il couvrait non seulement d'écriture mais de dessin. Et on a voulu montrer un de ces cahiers en fac-similé pour que le public puisse voir ce qu'étaient vraiment ces cahiers, puisque certains ont été publiés dans les œuvres complètes, mais sans les dessins. Et donc, on ne pouvait pas réaliser, quand on voyait uniquement le texte, toute cette théâtralité, tout ce caractère foisonnant, débordant de ces cahiers sur un si petit format, faire vivre à ce point l'écriture, les dessins, les pages transpercées, la chorégraphie que ça représente. Donc voilà, il y a toutes sortes d'aspects d'Artaud qui sont montrés.
Certains futurs lecteurs d'Artaud, Evelyne Grossman, ne savent pas par quoi commencer, disiez-vous. Vous avez su par quoi commencer ce volume de la collection Découverte qui lui est consacré. C'est par cette fameuse conférence du Vieux Colombier à Paris, le 13 janvier 1947. Histoire vécue d'Artaud Momo, tête à tête par Antonin Artaud. Une conférence qui était très attendue et qui a surpris les spectateurs venus au Vieux Colombier.
Oui, c'est une conférence qui a tourné court, puisque selon tous les témoignages que l'on ait de cette conférence, et ils sont nombreux, Artaud n'a pas réussi à lire les notes qu'il avait préparées, les trois cahiers qu'il avait apportés. Il a lu quelques poèmes et puis il s'est perdu dans ses feuilles et donc il a arrêté de lire. Mais tous les témoignages concordent pour dire que cette confrontation d'Artaud qui sortait de l'asile depuis quelques mois, de l'asile de Rodez, donc qui sortait de 9 années d'internement, a été quelque chose de bouleversant pour les spectateurs de l'époque. Ils étaient sans doute pour certains venus voir une sorte d'animal de foire, hein, le fou sorti de l'asile. Et ils ont été, je crois, bouleversés, contaminés par la force de ce qui leur était présenté. Artaud a voulu, d'une part, mettre en accusation la société qui l'avait enfermé. Il faut se représenter, c'est aussi l'immédiat après-guerre, hein, c'est la libération, tout ce que ça signifiait. Aussi le poète libéré, celui que la société avait enfermé, comme il l'a beaucoup répété. Et en même temps, au-delà de cela, c'était une parole autre qui se faisait entendre, la parole de quelqu'un qui racontait qu'il était envoûté, que des démons l'assaillaient, mais qui en même temps tenait un discours d'une vérité poétique, je crois, qui ne pouvait que frapper les spectateurs. Il y avait sans doute quelque chose là dans cette représentation, puisque c'en était une, qui était proche de ce fameux théâtre de la cruauté qu'il avait cherché à faire vivre, à incarner sur la scène depuis les années 30, depuis depuis en gros 1931, lorsque dans un de ses premiers textes, Le théâtre et la peste, qui était déjà une conférence à la Sorbonne cette fois, il avait, au dire des spectateurs, littéralement mimé un homme pris de peste et qui produisait un discours fou d'une certaine façon, mais en même temps un discours d'une poésie extraordinaire, qui voulait montrer la contamination que le discours peut produire sur le spectateur, qui alors n'est plus seulement un spectateur, mais qui est littéralement atteint corporellement par ce qu'on lui projette. Je crois que c'est ça qui s'est passé dans la conférence au Vieux Colombier. Il n'a pas réussi à tenir tout à fait le discours qu'il avait prévu de tenir, mais en même temps, il a commotionné, frappé, bouleversé le spectateur.
Je ne suis pas du tout Antonin Artaud de Marseille, mais Antonin Artaud de l'éternité, disait-il dans une phrase qui refuse en même temps la naissance et la mort. C'est vrai qu'il est, né à Marseille.
Il est né à Marseille, incontestablement. Il est né à Marseille et pourtant, il n'a de cesse d'affirmer qu'il n'est pas du tout né à Marseille. Pas d'un père et d'une mère, en tout cas. Pas de cette procréation humaine qu'il déteste, qu'il honnit, puisque le discours même d'Artaud, un de ses thèmes, si l'on peut dire, fondamentaux, c'est justement d'expliquer qu'on a tort de se croire né d'un père et d'une mère, qu'on a tort de croire à la mort, comme il dit. Il ne faut pas se laisser aller au tombeau. Il faut refaire le corps humain, il faut refaire l'anatomie humaine. C'est ça le but du théâtre de la cruauté, de refaire un autre corps, hein, ce qu'il appelle entre autres le corps sans organes, c'est-à-dire sortir de cette anatomie qui nous voue au tombeau, sortir de cette linéarité chronologique qui fait que l'on tombe. C'est ça aussi un insurgé du corps, ça veut dire qu'on ne tombe pas, qu'on ne descend pas d'une lignée généalogique, mais qu'on remonte, qu'on s'insurge, qu'on se soulève. Et que l'écriture, c'est ce soulèvement qui produit un acte qui est un corps.
On n'est pas assigné à résidence d'aucune façon. Et c'est intéressant de le noter parce que sa famille, c'était des capitaines au long cours, de père en fils. Donc, il était prédestiné, d'une certaine manière, à ne s'arrêter nulle part. Sa mère, originaire de Smyrne, donc une enfance polyglotte, où le grec, le turc, l'italien, le français se côtoyaient.
Et toutes ces langues, on les retrouvera dans son écriture, et en particulier à partir des années 45, lorsqu'il réinvente une autre langue qu'il appelle glossolalique, qui est donc une langue qui reprend toutes ces langues de son enfance et en même temps d'autres langues, des langues inventées, des langues qui n'ont plus rien à voir avec le français, puisqu'il faut aller au bout du français, comme il le dit. Et tout ceci, naturellement, a à voir avec cette enfance qui est marquée par toute une infinité de langues qu'on parle dans sa famille, c'est vrai. Même si il ne faut pas, je crois, rechercher des mots réels, dans les glossolalies, dans ces syllabes inventées à partir de Rodez, il explique très clairement qu'il s'agit d'abord de corps. Ce sont des corps animés, dit-il, ces syllabes. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a toute cette utopie d'inventer une autre langue, une autre écriture, qui serait comprise immédiatement par tout le monde.
Alors comment ce désir d'écrire des poèmes, d'abord, et puis le théâtre, entre-t-il dans sa vie ?
C'est au début des années 20, quand il arrive à Paris, qu'il quitte Marseille, donc, qu'il commence à écrire d'abord des poèmes. Et puis il y a ce fameux épisode en 1923, quand il envoie quelques-uns de ses poèmes à Jacques Rivière, le directeur de la Nouvelle Revue Française, monument académique, là, pour le coup, institution reconnue. Et Artaud demande à Jacques Rivière si ses poèmes sont littérairement recevables.